Le 3 juillet dernier, une installation stratégique de la plus grande station d'épuration des eaux usées d'Europe a connu un spectaculaire incendie. Ça s'est passé à 30 km de Paris, dans la station d'Achères, un site classé Céveso Seuil Haut, comme d'ailleurs l'usine Lubrizol de Rouen. Il faudra entre 3 et 5 ans avant de pouvoir reconstruire cette usine, au prix dans l'intervalle d'une pollution gravissime de la Seine. Voilà ce qu'écrivait le 27 septembre dernier le journaliste Marc Lémé dans un long article pour Le Monde Diplomatique. Il est l'invité dans un instant de La Terre au Carré. Il va tout nous raconter sur l'omerta entourant cette catastrophe industrielle majeure. Vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert ensemble dans quelques minutes.
Oui, je vais revenir aujourd'hui sur les paroles de nos présidents en matière d'environnement.
Dans la deuxième demi-heure, le nouveau reportage de la semaine avec vous, Guy Van Til. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et vous avez donc passé plusieurs jours dans la forêt amazonienne pour La Terre au Carré.
Oui, parce que même après les incendies, la déforestation s'y poursuit. Mais les Indiens Uru et Wawa, que je suis allé retrouver dans l'ouest du Brésil, n'ont pas l'intention de se laisser faire.
Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Valentine, une auditrice en charge d'un MOOC zéro déchet. Et puis enfin, notre invité découverte est le paléontologue Ronan Alain qui signe la préface d'un ouvrage, Le Supercontinent, une histoire naturelle de l'Europe, écrit par l'Australien Tim Flannery. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Alix Barnois et Paul Percheron.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré. Sur France Inter.
Bonjour Marc Lémé.
Bonjour Monsieur Ida.
Bienvenue, vous êtes donc journaliste et conseiller auprès des collectivités locales pour l'eau et l'assainissement et vous avez signé le 27 septembre dernier pour Le Monde Diplomatique un article très remarqué, article complet concernant l'incendie d'une installation stratégique de la plus grande station d'épuration des eaux usées d'Europe. Article intitulé « Omerta sur une catastrophe industrielle majeure aux portes de Paris ». Article qui évidemment a un écho tout à fait particulier après l'événement de Rouen et de Lubrizol.
Absolument, parce que c'était quasiment le même jour, mais c'était un pur hasard.
Hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement alors le 3 juillet aux alentours de 16h45
Eh bien, on ne le sait pas encore avec précision, puisque plus de trois mois après, les origines de l'incendie demeurent inconnues. Il y a cinq enquêtes en cours, une enquête judiciaire, une enquête de la DRIE, une enquête interne, une enquête à un bureau spécialisé, l'État s'en est mêlé, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Enfin, il y a quelques hypothèses, mais on ne peut pas le savoir avec précision.
Dont le court-circuit, en
particulier. Alors, ce sont des hypothèses, mais je doute un peu que dans l'état du bâtiment qui a brûlé, on puisse peut-être venir à bout et avoir une réponse véritable. En revanche, j'ai un certain nombre de sources syndicales qui m'ont alerté depuis quelque temps. Ce n'est pas un incident isolé. En l'espace de 18 mois, il y a eu 17 incidents graves. Dans un site classé, ce qu'on appelle ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, Céveso Seuil 2 depuis 2010, plusieurs départs d'incendie, des départs de flammes, enfin des choses extrêmement inquiétantes, qui ont d'ailleurs conduit le préfet des Yvelines plus de six mois avant, a adressé des mises en demeure au SIAP en demandant de respecter un certain nombre de, disons, de contraintes, ce qui n'a pas été fait.
Alors le SIAP, c'est le syndicat pour l'assainissement de l'agglomération parisienne qui gère donc cette usine. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un bâtiment de l'usine qui a brûlé, qui est parti en fumée.
C'est ce qu'on appelait l'unité de clarifloculation.
Alors qu'est-ce que c'est, la barbarie.
Alors l'assainissement, c'est quelque chose de très compliqué, qu'on connaît très mal. Pour vous situer un petit peu, cette usine est la plus grande usine européenne, la plus grande station d'épuration, la seconde après Chicago. Elle occupe une emprise de 600 hectares dans une boucle de la Seine. Elle a été construite en 1940 et elle a un caractère absolument stratégique dans toute la région parisienne puisqu'elle accueille près de 60% des volumes d'eau usée de Paris, usées, de la petite couronne, de la grande couronne, de 9 millions de franciliens. Alors, ce qu'a Dieu ne plaise, mais imaginez un peu si cette usine s'arrête de fonctionner, on se trouve dans une situation absolument désastreuse. Donc elle joue un rôle absolument stratégique et elle assure à elle seule l'assainissement des eaux usées de 60% de l'agglomération parisienne. Le bâtiment qui a brûlé a été construit il y a 20 ans. Il succédait à des gigantesques bassins de décantation à ciel ouvert qui en puantissaient toute la région, d'ailleurs, ce qui a été un sujet de polémique avec des riverains pendant plus d'une dizaine d'années. Et en fait, il est tout en amont de ce qu'on appelle la filière de traitement. Parce que je ne vais pas vous noyer avec des trucs techniques, mais une filière de traitement comme celle qui est installée en Seine-Aval fait appel à différentes technologies de traitement qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc vous imaginez une emprise de 600 hectares, Et on a donc, au début, ce qu'on appelle, les eaux usées arrivent. On a une décantation simple. Ça s'appelle le dégrillage, le dessablage, etc. On enlève les plus gros déchets. Mmh. Ensuite, une décantation physico-chimique, c'est l'unité clarifloculation qui a brûlé, dans laquelle on utilise un adjuvant, du chlorure ferrique, qui est très dangereux. Il ne brûle pas, lui, hein, mmh. Il n'explose pas, mais il est très dangereux. Et ensuite, on a ce qu'on appelle, je m'excuse, une unité de nitrification, dénitrification, avec laquelle on traite la pollution carbonée, les particules de manière organique, le phosphore, et enfin une file biologique avec des bioréacteurs à membrane et des unités de biofiltration. Voilà, j'en arrête là mmh. avec les composants techniques, mais donc, ça, ce sont des emprises qui font des kilomètres de long, vous voyez, qui accueillent des volumes considérables. Et cette unité de clarifloculation assure essentiellement le traitement, l'élimination, parce qu'on n'élimine jamais toute la pollution dans une station d'épuration, mais notamment du phosphore, dont le rejet éventuel dans le milieu naturel est absolument dramatique. On l'a vu, mm-hmm. puisqu'en l'espace de 15 jours, il y a eu au moins 10 tonnes de poissons morts. Si vous rejetez du phosphore massivement dans une rivière, le phosphore absorbe tout l'oxygène dissous dans l'eau, les poissons meurent.
Oui.
Donc c'était cette unité absolument vitale en tout début de la filière.
Pour éviter l'épuisement de l'oxygène, tout simplement, dans la Seine.
Pour éviter. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il y a d'autres stations d'épuration que le syndicat a construit à partir des années 70-80, mais on ne peut pas, ce qu'on appelle bypasser, c'est-à-dire on ne peut pas réexpédier les volumes qui ne pourraient plus être traités à chair dans les autres stations qui ont, disons, une capacité relativement limitée. Et alors, élément fondamental que personne ne connaît vraiment, je m'en excuse, la difficulté avec l'assainissement, c'est la différence entre temps sec et temps de pluie. Et là, ce qu'il faut comprendre, dans toute l'agglomération parisienne, en temps normal, on a des gigantesques égouts et exutoires qui envoient toutes les eaux usées des stations d'épuration. En temps normal, ça représente 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée par jour.
Mmh.
Dans l'hypothèse où survient un orage brutal, ce qui arrive à peu près 50 jours par an, le volume supplémentaire d'eau de pluie qui va rentrer dans les émissaires du SIAP par les bouches d'égout, qui a ruisselé sur les toitures, qui a ruisselé sur le sol, se chargeant d'hydrocarbures, de métaux lourds, enfin de tas de composants pas du tout sympas, ce volume supplémentaire atteint et même dépasse le volume journalier des eaux usées. Comme on ne peut pas se lancer dans une course sans fin pour agrandir, alors ça, quand je dis ça, les écolos s'arrachent les cheveux, mmh. en fait, on met en place en amont des stations d'épuration ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. Promenons-nous sur les bords de la Seine, ici, un peu plus loin. Entre La Nation et Suresnes, on a 47 tuyaux qui s'appellent des DO, des déversoirs d'orage.
Et ça déverse quoi alors ? Quelle eau ?
Dans l'hypothèse où il y a un orage extrêmement brutal qui surgit. S'il n'existait pas ces déversoirs d'orage qui vont, attention, désolé pour tout le monde, tous les écolos, qui vont servir à rejeter dans le milieu naturel les volumes supplémentaires mélanger eau usée, eau de pluie, que ne peuvent pas accueillir les égouts, les exutoires. Sinon, si on n'avait pas cette solution de rejet dans le milieu naturel, tout le centre de Paris serait inondé à chaque orage et tous les plaques d'égouts sauteraient. Mmh. Et donc, ce qui est fondamental et très difficile par rapport à l'assainissement, il faut configurer tous les équipements dans les deux hypothèses. Par temps sec, vous avez un certain volume, donc au cas d'espèce, 2,5 millions de mètres cubes par jour. Orage soudain, en l'espace de quelques heures, on a 2,5 millions supplémentaires. Et il faut donc s'assurer d'avoir une certaine souplesse dans le pilotage des installations pour pouvoir absorber tout ça. Et là, le drame, l'unité qui a brûlé, l'usine de clarifloculation, intervenait particulièrement, je dirais pas spécifiquement, mais sur le phosphore. Et là, il y a des chiffres absolument impressionnants. Dans les 3 heures qui ont suivi l'incendie et l'interruption du fonctionnement de l'usine, les flux les plus dangereux pour le milieu naturel, pour la faune aquatique, c'est ce qu'on appelle la DBO5, la demande biologique en oxygène. En temps normal, l'usine d'Achères en rejette 600 kilos.
Mmh.
Dans les 3 heures qui ont suivi l'incendie, on en a rejeté 19 600 kilos.
Mmh. Donc ça veut dire qu'à cause de l'incendie, des eaux usées, donc partiellement traitées, très partiellement traitées,
fonctionnement totalement dégradé,
ont été rejetées dans la Seine.
Ont été rejetées massivement. Et alors, pour l'azote ammoniacal, normalement on en rejette 80 kilos. Là, on en a rejeté 4250 kilos. Pour le phosphore total, on en rejette 100. Normalement, on en a rejeté 666.
Résultat sur les poissons, on écoute un reportage de TV78, justement quelques jours après l'incendie.
Depuis mercredi, ça dure comme ça. Mercredi soir, il y a deux agents du SIAP qui sont venus. et ils ont vu, il y avait des milliers de poissons qui étaient à la surface en train de respirer, qui essayaient de se sauver. Même les anguilles sortaient de l'eau pour monter sur la berge, pour pouvoir échapper à la pollution, vous vous rendez compte ? On peut même plus laver le bateau, on peut rien faire. On ne peut pas arroser les plantes, rien du tout, il ras-le-bol.
Voilà, donc vous écrivez dans votre article du Monde Diplomatique, fin juillet c'était à peu près 10 tonnes de poissons oui. Qui étaient remontés à la surface, morts oui. Donc, avec ces problèmes d'oxygénation. Depuis, absolument. On a une idée à peu près de...
Alors depuis, il y a des études qui ont été commanditées par le SIAP, avec deux organismes très liés au SIAP, ça s'appelle le JIP-Sénaval et puis le Pirensen, avec deux laboratoires de recherche, l'un à la Sorbonne, l'autre à Caen, qui ont fait des analyses en aval et qui ont constaté que la situation était un peu rétabli. Ouais. Disons que, mais alors, le problème maintenant, on rentre dans une séquence où le SIAP va aller acheter des petits alevins dans des piscicultures, parce que toute la com du SIAP depuis 30 ans s'est dit, regardez, la qualité des eaux de la Seine s'est superbement améliorée. D'ailleurs, avant, il n'y avait plus de poissons, maintenant, il y en a 30. Ouais, sauf quand même que ces poissons étant bourrés de PCB, on ne pouvait pas les manger. Mais c'est un autre problème. Et maintenant, on rentre dans une séquence. Aussi longtemps qu'il va falloir attendre la reconstruction et l'amélioration de l'unité qui a brûlé...
Donc c'est 3 à 5 ans de travaux.
C'est 3 à 5 ans de travaux. Le drame, ça va être que en période critique, c'est-à-dire
orage,
l'été...
Orage, par exemple.
Alors, surtout l'été, parce qu'il y a un autre... Pardonne-moi, j'ai été un peu trop vite. La Seine n'a pas assez de débit pour accueillir tous les usages qu'on en fait. Faire de l'eau potable, s'en servir pour diluer les rejets des stations d'épuration.
C'est exactement le cas où on l'a chaud. Hein.
C'est exactement.
Très faible étiage de la Seine à ce moment-là.
On était dans le créneau. La Seine en été a un étiage, donc un faible débit de 80 à 100 mètres cubes secondes. En réalité, tous les experts en sont d'accord, il faudrait, pour que tout fonctionne correctement, que ça soit 4 à 5 fois plus important. Mais on ne peut pas le faire.
Marc Lémé, vous parlez d'une pollution gravissime de la Seine, justement pour les années qui viennent. Vous dites même que c'est probablement un accident plus grave encore que Lubrizol du point de vue environnemental. Oui. On va en discuter ensemble dans un instant avec les messages également des auditeurs qui nous rejoignent dans cette terre au carré au 01 45 24 7000. A tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, on passe au vert aujourd'hui et vous revenez sur les paroles de nos dirigeants au sujet de l'environnement, justement.
Oui, et on repart alors à la fin du mois d'août. Souvenez-vous, les grandes puissances mondiales sont réunies à Biarritz. C'est le sommet du G7 avec Emmanuel Macron aux manettes. Et le climat et la biodiversité annoncés au cœur du programme, alors que la forêt amazonienne est en feu. Notre cher président semble déterminé dans son allocution.
Nous devons répondre à l'appel de l'océan qui est derrière moi, ici à Biarritz, et à l'appel de la forêt qui brûle. Et donc, nous allons agir.
Il est convaincant, là, non ? On a envie de le croire. Hein. Nous allons agir, ok, après tout, c'est lui le patron, mais je comprends pas, en fait. Est-ce que vous vous souvenez de ça ?
Make our planet great again.
L'appel aux chercheurs américains, devenu slogan présidentiel pour la défense de la planète, mais c'était il y a plus de 2 ans déjà, c'était en juin 2017, juste après son élection à Emmanuel Macron. Il avait l'air d'y croire aussi, non ? Et je comprends pas parce que avant lui, François Hollande, il avait eu l'air très convaincant également en clôture de la COP 21.
Le 12 décembre 2015 restera une grande date pour la planète. C'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie. La révolution pour le changement climatique. Merci. Vive les Nations Unies. Vive la planète et vive la France.
Et là, alors, on avait vraiment l'impression que tout était réglé pour l'environnement. Il faut dire qu'il leur avait quand même mis la pression.
Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, sur vos épaules repose l'espoir de toute l'humanité. Jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé.
Alors, hyper solennel, hein, François Hollande, jamais, blabla, mais faudrait quand même se synchroniser parce que 8 ans plus tôt, Nicolas Sarkozy, lui aussi, avait lancé un appel.
Aujourd'hui, on sait, ne rien faire serait rien d'autre que criminel au regard de l'avenir de la planète, quel que soit le continent.
Et il avait même organisé le Grenelle de l'environnement en 2007.
Le temps de l'action est venu, nous avons trop attendu, nous ne pouvons plus attendre. Ce que j'ai dit ce soir, nous le ferons.
Ah d'accord, oui. Alors Jacques Chirac, il disait quoi, lui ?
Nous devons aujourd'hui réagir, c'est vital.
Alors ça, c'était en 2002, 2 mois avant son célèbre « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et en 2006, il recommençait.
Il y a l'enjeu écologique. C'est un enjeu immédiat.
Immédiat, mais alors immédiat comment en fait ? Parce qu'en 1989, il y a 30 ans aujourd'hui, voilà ce que disait François Mitterrand.
La détérioration de l'atmosphère est aujourd'hui certaine. Ses conséquences peuvent ruiner les possibilités même de la vie sur la planète.
Bon, alors c'est bien qu'ils s'en rendent compte. Après tout, Giscard, il n'avait rien fait. Ah si, en fait, en 77.
La France va organiser, à l'automne prochain, les assises européennes de l'environnement. Car c'est un problème qui se pose naturellement à l'échelle de notre continent.
Et il avait même eu le nez fin, Giscard.
Je crois qu'il y a, dans les thèmes de l'écologie, un réservoir d'enthousiasme et d'action pour les jeunes. Et je compte au printemps m'adresser à un grand rassemblement de jeunes sur le thème de l'écologie.
Voilà, donc des jeunes qui doivent avoir une bonne cinquantaine d'années aujourd'hui, pendant que les jeunes actuels défilent régulièrement pour le climat et l'environnement, dont Pompidou, même lui, s'était emparé au début des années 70.
Le problème, c'est de travailler à faire que l'environnement soit compatible, un bon environnement soit compatible avec le progrès. C'est ce que nous cherchons à faire en France, et c'est pourquoi en particulier que j'ai créé le ministère de l'Environnement, mais nous ne réussirons qu'à l'échelle internationale.
Presque 5 décennies remontées, 50 ans de déclaration, et donc nous voici fin août 2019.
Nous allons agir.
Non, vraiment, je comprends pas. Et je précise d'ailleurs que Donald Trump a refusé que le climat soit au menu du prochain G7 en juin 2020 aux États-Unis.
Merci beaucoup Camille Cronier. Chronique évidemment à réécouter sur franceinter.fr. On revient donc sur ce gigantesque incendie à la station d'épuration d'Achères. C'était en juillet dernier, passé relativement sous silence. Et on en discute avec le journaliste Marc Lémé qui connaît très bien le dossier.
Pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts, j'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts. Je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je croisé ta route? Qui donc a fait de moi ce petit tas de doutes? Est-ce toi? Et pourquoi faut-il que tu t'en foutes, que tu me laisses là? N'entends-tu pas? Écoute, mon cœur tambour qui bat annonce ma déroute infinie. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix.
Alex Baupin, pas plus le jour que la nuit.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà notre invité Marc Lémé pour nous parler donc de cet incendie qui s'est produit le 3 juillet dernier en région parisienne dans la station d'épuration d'Achères avec les messages, toutes les questions que se posent également les auditeurs. On va tout de suite accueillir d'ailleurs Marc Lémé, Yves qui est en ligne avec nous de Metz je crois. Bonjour Yves.
Oui bonjour.
Bienvenue
bonjour.
À vous, on vous écoute, on écoute votre question.
Non ma question c'était, ça a eu lieu le 3 juillet, on est maintenant fin octobre. Donc il y a eu une omerta, vous l'avez dit vous-même. Qui est responsable de l'omerta? Qui fabrique l'omerta?
Alors, Marc Lémé, puisque c'était le titre de cet article, oui. Justement, dans le monde diplomatique.
Alors, on a une galaxie de suspects habituels, et je vais vous en donner un éclairage avec le fait que quelques jours auparavant, la Chambre régionale des comptes Île-de-France a publié un rapport extrêmement sévère sur la gouvernance extrêmement exotique du SIAP. Oui. Ce rapport nous apprend que ce syndicat, qui a été créé en 1970, s'est affranchi au fil du temps d'un certain nombre de contraintes légales, les présidents, vice-présidents ont touché pendant des années des indemnités auxquelles ils n'avaient pas droit, le SIAP a été contraint de les rembourser, certains élus ne veulent pas d'ailleurs, et etc. etc.
Vous dites
etc.
que le SIAP c'est l'État dans l'État. Hein.
Ah c'est un État dans l'État, ouais. Mais pour mieux le comprendre, il n'existe pas en Europe et a fortiori en France un syndicat de ce type, donc qui concerne toute la zone centrale de Paris, 187 communes en grande couronne, 400 sites industriels, un territoire de 1800 km², 440 km de canalisation, un budget annuel de 1,2 milliard d'euros, 1700 agents et la chronique judiciaire depuis une dizaine d'années a été émaillée de scandales absolument retentissants autour de marchés contestés autour du SIAP, des marchés de plusieurs centaines de millions d'euros attribués aux grandes entreprises françaises du secteur avec l'aide de bureaux d'études, de géants du BTP, et la justice s'en est emparée et a annulé plusieurs de ces marchés. Donc c'est ce contexte général qui, à mon sens, participe de cet omerta.
Alors, omerta et puis discrétion des médias aussi quand même. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que ça se passe le 3 juillet, on n'est pas quand même au plein cœur de l'été.
Absolument. Alors c'était l'été, c'était les départs en vacances. L'assainissement est quelque chose de totalement méconnu des Français. Comme il n'y a pas eu, au cas d'espèce, un immense nuage de fumée noire comme à Rouen, en fait ça atteint l'eau, c'est à peu près invisible. Et l'assainissement en lui-même est méconnu, en fait, n'est pas valorisé. Si vous voulez voir un élu aller, ça existe, inaugurer, couper le ruban pour une station d'épuration, quand il coupe le ruban, il y a quelques élus, il y a quelques personnels, et il y a les fabricants qui ont fabriqué le... Mais c'est tout. Si vous voulez, c'est pas sexy, c'est pas glamour.
Mais
quoi.
Les pouvoirs publics n'ont rien dit non plus. Alors c'était aussi juste avant la démission de François de Rugy, à l'environnement, il y a rien eu du gouvernement.
Ben, sur l'affaire du SIAP en général, c'est assez étonnant, parce que quand on regarde un peu tous les aspects, que ce soit la gouvernance, que ce soit ces affaires de marché truqué, etc., on se rend compte qu'il y a une forme d'inertie. À mon sens, ça tient aussi au fait que une station d'épuration, ce syndicat d'assainissement, on ne peut pas l'arrêter. Il faut que ça marche toujours, parce que si ça s'arrête, on est dans une situation absolument...
Alors que c'est un Céveso,
C'est une usine Céveso 2. Et on se rend compte, c'est ça, des sources syndicales me l'ont confirmé à plusieurs reprises, qu'en fait, ces dernières années, il y a un laxisme de plus en plus important, il y a de moins en moins de personnel, il y a la problématique aussi de la commande à distance, que j'évoque, parce que si vous voulez, avec les progrès technologiques, avec le numérique, l'informatique, auparavant, on avait des agents sur place qui, de manière assez rudimentaire, dans le passé, tournaient des vannes, etc. Maintenant, tout ça est centralisé dans un poste de pilotage en plein Paris, d'ailleurs. Et je m'interroge dans le papier que j'ai publié, vous avez bien voulu citer tout à l'heure, sur des témoignages que j'ai pu recueillir à cet égard et sur les difficultés de conduire à bien en situation nominale tous les jours un pilotage à distance construit sur des générations successives de logiciels informatiques qui semblent pas être interopérables. Donc moi je pense, on verra avec les enquêtes en cours, parce que oui, on m'a raconté que dans le poste de pilotage, les opérateurs qui avant avaient comme un gigantesque truc d'avion devant eux, bricolent sur plusieurs téléphones portables. Donc à un moment l'erreur est humaine et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait regarder de plus près.
Valérie, vous êtes en ligne également avec nous dans la Terre au Carré. Bonjour, bienvenue, merci de poser votre question à Marc Lémé.
Oui, bonjour, monsieur Mémé, d'abord, je suis ravie que vous passiez aujourd'hui à la télévision.
C'est la radio.
C'est la radio.
Allô. Vous avez l'image, vous, Valérie?
Je vous dis la télé. Oh, excusez-moi. Bon, vous ne m'en voudrez pas?
Non, pas du tout. Alors, on vous
voilà, je suis vraiment ravie de vous entendre. En plus, j'adore Inter. Donc, voilà. Alors, je vous appelle parce que j'habite Conflans-Sainte-Honorine. J'ai vu la colonne de fumée. Malgré tout, il y en a eu une. Mmh. J'ai vu les poissons venir au bord de l'eau, tenter de respirer un oxygène tant bien que mal. Et je les ai vus le lendemain tous sur le dos mourir. Des tonnes, enfin j'en ai vu beaucoup. Depuis, je ne cesse de m'informer sur le sujet, j'habite en face, donc évidemment on se sent un peu en danger. Et j'ai assisté à une réunion mardi dernier, le 14 octobre à 20h30 à Conflans-Sainte-Honorine, où le maire était présent, où il devait nous parler des systèmes d'alerte, etc. Bon, finalement on est tous revenus sur l'événement du 3 juillet, bien sûr, en posant des questions. Et une chose m'a interpellée, je demande à monsieur Marc Lémé s'il peut me dire si cette chose lui semble crédible ou non. On nous a expliqué que dans la cuve, le chlorure férique, que vous nous avez dit extrêmement dangereux, extrêmement toxique, était tombé au fond de la cuve. Et que du coup, c'était parfait, rien n'était tombé dans l'eau, et comme vous disiez, il paraît que ce n'est pas inflammable. Donc est-ce que cette chose qui est arrivée ce jour-là vous semble crédible?
Alors, c'est d'autant plus crédible que bon, alors le chlorure férique ne brûle pas, n'explose pas, etc. Le bâtiment qui a brûlé, si on visualise, on a d'immenses tuyaux en plastique dans lesquels circule le chlorure férique pour être mélangé à l'eau. Et quand l'incendie s'est déclenché, donc on a ce qu'on appelle un radier au fond de ce bâtiment, une cuve, et le chlorure férique effectivement s'est déposé au fond. Le témoignage des pompiers, il a fallu plusieurs jours pour pouvoir effectivement venir avec des équipements adaptés, pomper ces résidus qui étaient au fond pour ensuite les acheminer dans des décharges contrôlées, spécialisées, etc. Donc, en réponse à votre question, effectivement, ça n'a pas été rejeté directement dans la Seine et il n'y a pas de problème particulier, si vous voulez, de la méthodologie qui a été mise en place. Mais sauf que ça a entraîné quelque chose, il y a de témoignages même des pompiers que j'ai pu interroger. Quand les pompiers sont arrivés, ils allaient se connecter sur ce qu'on appelle les piquets d'incendie. Mais les piquets d'incendie ne fonctionnaient pas parce que le SIAP avait fait passer les tuyaux qui alimentaient ces piquets d'incendie sous l'usine qui a brûlé, et avec l'effondrement en sous-sol, c'était impossible de passer de l'eau.
Vous parlez donc d'une pollution gravissime aujourd'hui, oui, de la Seine. Oui.
Alors, ceci parce que nous avons contracté, comme l'ensemble des États membres, des engagements communautaires d'améliorer l'état des eaux. On a investi des milliards d'euros pour ce faire, au SIAP et ailleurs. Là, il est clair que dans les 3 à 5 années qui viennent, l'usine d'Achères, dont on a vu le rôle extrêmement important, 60% de la région parisienne, va fonctionner en mode dégradé. Ouais. Le SIAP a élaboré un certain nombre d'alternatives possibles, mais aussi longtemps que l'unité ne sera pas reconstruite, on va fonctionner en mode dégradé. Ce qui entraîne évidemment des infractions par rapport à nos engagements communautaires. On a investi déjà des milliards d'euros pour améliorer la qualité des traitements, la qualité de l'eau de Seine, et on va se trouver peut-être avec, y compris, des poursuites de l'Europe.
Alors on a Chantal Parmel qui demande du coup si on pourra un jour se baigner dans la Seine. C'est notamment une des promesses pour les Jeux Olympiques en 2024.
Alors là nous sommes très en aval. Les baignades en Seine qui sont évoquées avec insistance depuis maintenant 3 ans, ça serait plutôt entre le Trocadéro et le pont de l'Alma. Alors là on n'a pas le temps, mais je peux déjà vous indiquer que c'est rigoureusement impossible. On ne sera pas aux normes de la qualité des eaux de baignade. On n'en a pas le temps, mais on pourra en reparler le cas échéant. Ouais. C'est une véritable fumisterie cette affaire.
Donc encore 3 à 5 ans de travail. Oui. C'est ça, pour réparer ce qui est
absolument
parti.
Absolument, pour reconstruire l'usine.
Et en cas de nouvel accident, vous dites qu'il n'y a pas de plan B.
Ah, il n'y a pas de plan B, non.
Ouais.
Non. Et l'option qui est envisagée, avant cette usine, il y a 20 ans, quand on l'a construite, il existait 6 immenses bassins à l'air libre dans lesquels on procédait un peu à cette même opération. Ce n'était pas tout à fait configuré de la mer, c'était plus rustique. Mais quand on a construit l'usine il y a 20 ans, on n'avait plus besoin de ces bassins. Donc maintenant, il n'en reste qu'un qui est récupérable. Et donc, le SIAP va essayer jusqu'au printemps prochain de le remettre en usage. Mais on n'aura qu'un 1/6 de la capacité de traitement qu'on avait avec l'usine. Donc on est en mode dégradé pour des années.
Voilà.
Et le moment dangereux, c'est l'été. Fort orage. Et là, encore hécatombe de poissons.
situation édifiante. Merci beaucoup. J'invite tous ceux qui sont intéressés par ce dossier à lire votre article très, très précis, Marc Lémé, dans Le Monde diplomatique. Et puis vous êtes également auteur de plusieurs livres sur l'eau. Le dernier, Le lobby de l'eau, est paru aux éditions François Bourin en 2014. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans La Terre au Carré. Juste après les infos, le feuilleton de la semaine avec Divan Thiel qui va nous emmener en forêt amazonienne auprès des populations autochtones, qui vivent sous tension pour défendre leur terre et leur culture.
France Inter, La Terre au Carré.
Et au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec Valentine. C'est une auditrice en charge d'un MOOC. Zéro déchet. Et puis enfin, notre invité découverte est le paléontologue Ronan Alain qui signe la préface d'un ouvrage, Le Supercontinent, une histoire naturelle de l'Europe. Ça va nous faire remonter à 100 millions d'années en arrière. Ouais. Écrit par l'Australien Tim Flannery qui lui aussi est paléontologue. Mais pour le moment, un nouveau reportage de la série consacrée cette semaine, Givan Thiel, à la forêt brésilienne. C'est vous qui signez cette série de reportages. On va entendre le chant de guerre des Uru et Uwawa.
Bravo, très bonne prononciation.
Ouais, et vous nous emmenez dans l'ouest donc de la forêt amazonienne avec cette communauté amérindienne qui patrouille avec arc et flèche pour défendre ces terres.
Oui, car si les incendies ont été particulièrement violents cet été, dans le Rondônia, la couverture forestière a diminué de moitié au cours des dernières décennies. Et dans cet état où la population a voté à 72% pour Bolsonaro, beaucoup se sentent encouragés par ses promesses d'ouvrir les réserves à l'exploitation. Résultat, les populations autochtones vivent aujourd'hui sous tension permanente des attaques de ceux qui veulent accaparer leurs terres.
Chaque année en Amazonie, la déforestation et les incendies grignotent un peu plus les terres indigènes. Il y a 10 ans encore, ces pâturages n'étaient que de la forêt vierge.
Voilà plusieurs heures maintenant qu'on a quitté la route principale. Et que c'est vraiment maintenant devenu une piste. Mais le paysage autour n'a pas vraiment changé. Toujours des clôtures, des barbelés, quelques rares arbres. Et toujours ces vaches blanches, côtes saillantes. Même pas l'air de se régaler de toutes ces terres à disposition. Et c'est ici que commence la réserve Uru et Uwawa. Et on voit, c'est vrai, d'un coup, des pâturages qui s'arrêtent et un mur de végétation. Et pour marquer le début de cette frontière, le long de cette piste, il y a ce panneau tout rouillé qui est dit « Governo Federal, accès interdit aux personnes étrangères, terra protegida ». Et comme un avertissement, ce même panneau de terre protégée est criblé de balles, de trous, de gros fusils. Voilà.
Depuis début 2019, les menaces et les incursions illégales d'hommes armés se multiplient. Leur but, s'emparer des richesses naturelles de ces réserves qui couvrent 13% du territoire.
Dans ce village au milieu de la jungle, 6 familles partagent un quotidien fait de pêche, de chasse et de cueillette.
Là, il est midi passé, donc dans cette clairière du village, le soleil cogne très fort. Et si je retourne autour de moi, je vois un filet de pêche planté là, un hamac, et... Il y a la télé dans la cabane en bois.
Bois toutou.
Bois toutou. Enchanté, plaisir. Vous faites partie des jeunes du village. 23 ans. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que vous avez acheté le Wi-Fi. Ça marche ?
Ta bon.
Du coup, c'est le premier jour où Internet arrive au village.
Premier jour.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire là ? C'est quoi le premier truc qu'on fait quand on a Internet pour la première fois ?
Buscar mais informações, saber mais as coisas e também
chercher plus d'informations
sobre invasão de terra, né?
Sur l'invasion des terres.
Tive que baixar o Google, o avanço das queimadas, essas coisas, né?
Regardez sur Google l'avancée des incendies. Ah ouais, tout de suite. Moi, je pensais que vous alliez mettre à jour votre profil Facebook ou faire un compte WhatsApp ou mais non, c'est tout de suite en mode combat pour regarder comment va la forêt et comment avance l'attaque de la forêt.
Yeah, praticamente, né?
C'était quand la dernière attaque? C'était en janvier dernier. Les assaillants sont arrivés jusqu'ici.
40.
Une quarantaine de personnes. Et qu'est-ce qu'ils disent quand ils vous menacent?
O primeiro de tudo mesmo é depois que Bolsonaro entrou, ele falou que não tinha mais proteção. e que Bolsonaro deu as terras para eles, as terras indígenas, para invadir.
Les envahisseurs disaient que Bolsonaro les protégerait, que Bolsonaro était de leur côté et que vous n'aurez plus de défense et qu'ils allaient avoir accès à vos terres. Vous, vous voyez ici comme des combattants, en fait, toujours en train de défendre ce qui vous reste de terre.
Isso mesmo.
A vida dos indígenas que habitam a região está em risco.
La politique du nouveau président brésilien menace les terres des indigènes.
Os uruauauau se armam para expulsar os invasores.
Les conflits, parfois armés, avec les agriculteurs voisins sont courants.
Na verdade, meu pai quase matou um homem.
Et votre père a presque tué un homme. Alors, on va voir. C'était où qu'ils ont attaqué? Alors, on ouvre la voie à la machette pour pouvoir avancer parce que je vois à peine un petit sentier. Comment vous appelez?
Boadjoupi.
Boadjoupi, vous avez déjà fait la guerre? Vous vous êtes déjà battu? Juste un tout petit peu avec les Blancs. Oui, et les Blancs pour vous, c'est tous ceux qui ne sont pas amérindiens, qui veulent votre forêt, c'est les arbres et le sous-sol.
Ah, c'est
les Blancs, ils viennent ici en disant qu'ils ont toujours des ordres, des papiers de Brasilia qui les autorisent. Mais tout ce qui les intéresse, c'est de détruire la forêt. Et là, il y a des grands arbres qui ont été abattus. Alors, on saute d'un tronc à l'autre. Il y a des souches d'arbres au sol.
Hein?
Madeireiro? Et là, c'est carrément, ça ressemble à une piste qui a été ouverte par un tracteur ou par un camion. C'est ceux qui sont venus prendre du bois. Ouais, c'est carrément, ils avaient ouvert une piste là pour des camions. Et là, on voit, c'est la trace. C'est vraiment une saignée dans la forêt qui, sinon, est très très dense. Et ça continue comme ça sur plusieurs kilomètres. Et comment ça va s'arrêter cette affaire?
Je pense que quand. Réellement, un uruguay flécher un tapouin, ça va parar. Ça va sentir mieux.
Ça s'arrêtera que quand l'un d'entre nous tuera un des assaillants à coups de flèche et que les autres comprendront ce dont il s'agit.
Oui, c'est ça même. Et aussi pour les plus vieux qui luttent et pour ceux qui ont déjà mort.
Et vous voulez faire ça pour ceux qui sont battus avant vous et pour ceux qui sont tombés au combat en défendant votre terre.
Là, ce qu'on entend, Give, donc, c'est le chant de guerre des Uru et Uwawa qui peut servir avant ou après la bataille.
Voilà, et pour profiter de cette paix toute relative, on va retrouver les Uru et Uwawa demain pour un moment un peu moins martial, une partie de pêche à la rivière, dans la forêt.
Merci beaucoup, Give Angtil. Reportage, bien sûr, à réécouter sur le site de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré. Solutions pour la planète.
Camille, accueillons Valentine.
Bonjour Valentine.
Qui est avec nous en ligne. Bonjour Valentine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes donc en ligne avec nous depuis Paris. Vous êtes en charge d'un MOOC zéro déchet. Alors expliquez-nous d'abord ou rappelez-nous ce qu'est un MOOC quand même.
Oui, un MOOC c'est une formation en ligne. Donc c'est un mot anglais en fait qui veut dire Massive Open Online Course.
Ouais.
Mais c'est tout simplement une formation en ligne.
Alors là on aura jusqu'au 30 novembre justement pour bénéficier de cette formation gratuite pour se lancer dans le zéro déchet. C'est vous qui le proposez avec l'association Zero Waste France en collaboration avec l'Université des Colibris. Moi je ne connaissais pas cette université, elle se trouve où exactement?
C'est une université qui se trouve seulement en ligne, mais qui a conçu de nombreux MOOC justement sur plusieurs enjeux environnementaux, permaculture, monnaie locale, etc. Et qui nous ont sollicité pour construire un MOOC zéro déchet. Et avec Zero Waste France, on a décidé d'accepter parce qu'on s'est dit que c'était un bel outil à destination des citoyens.
Alors pourquoi justement le zéro déchet particulièrement?
Parce qu'il y a une vraie demande, une vraie prise de conscience autour de ces enjeux actuellement. Je pense que vous le savez bien parce que vous en discutez fréquemment dans votre émission. Et nous, en fait, en tant qu'association de référence sur ces sujets zéro déchet, zéro gaspillage, on a une de nos missions principales qui sont d'outiller les citoyens et les acteurs qui souhaitent participer à la réduction des déchets à la source. Et parmi ces outils, on construit généralement des... On sort des publications, on écrit des livres et on se disait qu'une formation en ligne pour accompagner les citoyens, ça manquait plutôt cruellement.
Car face aux poubelles qui débordent, les citoyens sont prêts à agir. Voilà, des slogans, en tout cas une des phrases qu'on peut lire, Valentine. Alors comment ça se passe si on va justement sur Internet avec ce MOOC? Qu'est-ce qu'on va apprendre pour se former aux bonnes pratiques, hein, j'imagine?
Ouais, il y a tout un aspect pratique, mais on va d'abord poser le constat. Donc c'est un MOOC qui s'organise par chapitre. On trouve 4 chapitres et qui est décliné ensuite en modules. Le but, c'est que ce soit une démarche progressive pour que ce soit pas trop impressionnant dès le départ. Mais en tout cas, le premier chapitre est vraiment consacré à poser le constat, faire comprendre aux citoyens pourquoi notre production de déchets est problématique et pourquoi produire des déchets, c'est aussi générer beaucoup de pollution.
Le constat, donc, c'est quoi ? Il y a beaucoup de déchets par personne en France, par exemple ?
Ouais, le chiffre officiel, c'est 570 kilos de déchets par personne par an.
Ah oui,
donc c'est assez
tonnes.
Énorme et ça peut être un peu accablant quand on constate ça. Et surtout que nous, on donne des chiffres sur toutes les pollutions inhérentes au traitement de nos déchets. On déconstruit un peu le mythe du tout recyclage. Donc c'est vrai que le constat, il peut être difficile à accepter. Mais après ça, le constat étant posé, on donne des solutions à chacun pour agir pour la réduction des déchets.
Alors justement, l'idée, je crois que pour vous, c'était de proposer une méthode simple avec à la fois des vidéos, des exercices, des fiches interactives. Donc tout est en ligne. C'est une sorte d'expérience un peu hybride, finalement, ce que vous proposez là.
Ouais, tout à fait. Il y a plein de types de supports, des reportages, des interviews, des défis pratiques à chaque module pour vraiment mettre la main à la pâte. Ce qu'on essaye de pousser aussi, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent sur leur territoire pour que ce soit pas seulement une expérience un peu isolée derrière son ordinateur où on peut se sentir démuni. Donc, on bénéficie de nos groupes locaux, à la fois les groupes locaux Colibri qui sont sur tout le territoire français et les groupes locaux de Zero Waste France, en encourageant les gens à se rencontrer autour du MOOC, à proposer des ateliers pratiques, des discussions et à aller plus loin en fait dans cette formation qu'ils vont découvrir.
Donc le virtuel a à la fois des super avantages pour ça, mais aussi des limites quelque part.
On pense toujours que c'est de toute façon cette problématique des déchets, elle doit être prise à bras le corps collectivement et pas seulement individuellement. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on donne un outil qui permettrait aussi aux gens de se rencontrer. On peut tout à fait agir au niveau individuel, mais on pousse toujours les gens à aller plus loin que ça et à se rendre compte que c'est aussi un enjeu politique.
Vous avez des retours déjà, Valentine, parce que ça a démarré en septembre, hein, je crois. Donc autour de cette formation, qu'est-ce que vous en disent les gens un petit peu qui le testent?
Pour le moment, les retours sont plutôt excellents, je dirais, en toute modestie. On a plus de 32 000 inscrits, donc c'est plutôt un beau succès.
C'est bien, bravo, oui.
Ouais, c'est pas mal, en espérant que les gens aillent vraiment au bout du MOOC, puisqu'il va être déployé jusqu'à la fin de l'année. Et les retours sont plutôt bons parce que les gens nous disent que c'est l'outil qui leur manquait, que souvent, ils ont mis des choses en place, mais que ça leur permet d'être plus ambitieux, d'aller plus loin et de se rendre compte qu'il y a encore beaucoup plus de choses à faire que de faire son déodorant maison. Mmh. Et donc les retours sont pour le moment excellents. Ouais.
Alors l'adresse pour ceux qui souhaitent justement se former gratuitement, on le répète, hein, c'est absolument payant.
C'est très important. Ouais, il y a aucune contribution financière.
Et donc c'est frama.link, c'est ça?
Alors vous le trouvez tout simplement en tapant MOOC Zéro Déchet sur votre moteur de recherche, sinon sur le site de Zero Waste France ou sur celui de l'Université des Colibris.
Et même sur le site de la Terre au Carré, figurez-vous Valentine, comme les choses sont bien faites. Voilà.
Ça y est, je l'ai sous les yeux, je m'y mets Mathieu, c'est
absolument parfait. Et on ira au bout du MOOC avec vous Valentine. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions, merci d'être passé dans ce rendez-vous. Et si pour vous qui nous écoutez, vous avez aussi des solutions à nous proposer individuellement ou collectivement, eh bien nous sommes preneurs, venez nous rejoindre pour en parler sur l'antenne. Vous pouvez nous proposer toutes ces idées sur franceinter.fr, sur la page de l'émission. Allez, dans un instant, notre invité découverte est le paléontologue Ronan Alain. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. Look at you,
shading me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
All the good girls go to hell. Voilà, c'était Billie Eilish.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Ronan Alain.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans cette Terre au carré, vous qui êtes paléontologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui préfacez donc le livre du scientifique australien Tim Flannery, qui s'appelle Le Supercontinent, une histoire naturelle de l'Europe qui paraît aux éditions Flammarion, avec donc votre confrère australien qui s'intéresse particulièrement à l'histoire évolutive de l'Europe, hein, c'est ça quand même?
Retour aux sources pour un Australien qui, ouais, qui retourne voir un petit peu ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Ouais. Je ne sais pas exactement quelle génération, mais oui, oui, ouais, il revient vers nous et puis là, avec son regard d'Australien, il nous raconte notre histoire.
Voilà, il dit « Moi, je vis aux antipodes et pourtant, ce continent-là m'intéresse tout particulièrement. » Il faut en dire un petit mot peut-être, Ronan Alain, de Tim Flannery, parce que c'est un scientifique, donc c'est un confrère à vous, un paléontologue, mais un militant écologiste très engagé et assez sans concession d'ailleurs, hein, sur les affaires de climat. Hein.
Oui, alors il a commencé par de la paléontologie, il a fait des thèses, je crois, sur des kangourous fossiles en Australie. Donc au début, mm-hmm, il s'est concentré sur ces animaux-là. Après, il est passé petit à petit à un mammalogiste, donc il a commencé à s'intéresser à des animaux actuels. Et en fait, depuis le début des années 2000, il est vraiment impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique, surtout contre tout ce qui est émission de CO2. Donc il a commencé tranquillement sa carrière de militant, on va dire, en Australie. Et puis maintenant, c'est quelqu'un qui est assez recherché pour sa parole.
Il était presque trop radical, finalement, dans les idées, en tout cas, qu'il préconisait. Hein.
Il y a eu des idées très, très radicales au début. Il est toujours provocateur. On retrouve ce petit ton provocateur d'ailleurs dans son livre, mais c'est ce qui fait que la lecture est assez agréable. Et bon, il y a quand même aussi un second degré, mais je pense qu'il est quand même sans concession dans le sens où il dit, comme beaucoup de scientifiques à l'heure actuelle, où on a déjà passé la limite, quoi. Ouais. Il n'est plus le temps de faire des petites mesurettes, il faut agir.
Donc il faut être radical d'une certaine manière. Le livre, donc, il retrace l'histoire naturelle de l'Europe sur 100 millions d'années d'histoire géologique, biologique et climatique. Donc c'est une grande histoire et en même temps assez courte à l'échelle de la Terre, mais il s'est passé énormément de choses quand même en 100 millions d'années. Hein.
Alors, c'est une grande histoire. Alors, moi, j'étais étonné quand on m'a demandé de lire le livre et de le préfacer. Déjà, je me suis dit, il va nous raconter l'histoire de l'Europe. Mais c'est quoi l'Europe? Ça commence quand? C'est où?
Ouais. Et ça ressemble à quoi à cette période-là? Voilà. Et quel est le départ? Ouais.
Alors, le départ était très bien. Je pense que j'aurais choisi la même chose. Il a pris 100 millions d'années. 100 millions d'années, c'est une époque, c'est la fin du Crétacé. On n'est pas complètement à la fin des dinosaures, mais c'est une époque de haut niveau marin. Donc, l'eau est très élevée. Les océans sont répandus vraiment sur toute la planète, et l'Europe est un archipel, donc c'est un peu Bora Bora.
Ah ouais, c'était cool à l'époque.
On est sous les tropiques, et donc finalement, sous ces tropiques, il y a une petite faune qui va se développer, et en fait, il part de cette petite faune-là, et puis il va nous raconter un petit peu ce qui l'arrive, et puis il raconte ça toujours avec toujours un petit peu la même approche par chapitre, c'est-à-dire il y a une approche historique, il y a toujours un ou deux scientifiques, alors souvent des gens qui sont assez croustillants, et puis après il va prendre un gisement, et puis il va détailler ce gisement, et puis il va nous raconter notre histoire avec une suite de petites anecdotes.
Non mais c'est vrai qu'à l'époque, il faut imaginer les dinosaures qui se baladent d'atoll en atoll quasiment, ça ressemble alors, un petit peu à ça ou pas?
Pas tout à fait, justement, au début on a justement des faunes complètement incroyables, des faunes insulaires, donc quand on est en milieu insulaire, en paléontologie, en biologie, on sait ce qui se passe. Les petits animaux ont tendance à grandir, et les gros animaux ont tendance à rapetisser. Donc on se retrouve avec des ptérosaures, donc des animaux qu'on trouve en Roumanie, Atsecopterus, qui sont des animaux avec 10 mètres d'envergure. En Europe. Et à côté de ça, les dinosaures, les petits rhabdodons, les petits titanosaures, les petits sauropodes, nos herbivores quadrupèdes, eux sont vraiment tout petits, sont presque nains, quoi. Donc on a une forme de nanisme insulaire, quelque chose qui est très bien connu en évolution. Et donc on part de là. Et puis à partir de là, à la fin du Crétacé, on va avoir une petite chute des continents, l'Europe s'ouvre, et alors là, on va avoir tout un tas d'animaux qui vont arriver, et on va commencer un espèce de melting pot, qui finalement, qu'on va suivre pendant 65 millions d'années, ce melting pot, il conduit à la faune et à la flore qu'on connaît actuellement.
Pourquoi il parle de l'île de Hateg, là, justement, qui se trouve au niveau de la Transylvanie aujourd'hui en Roumanie? Alors pourquoi il choisit cet endroit-là pour justement sa particularité, son espèce de croisement? Ça peut être considéré comme le carrefour finalement de cette évolution?
Alors, je pense qu'il aurait pu prendre l'Espagne, il aurait pu prendre la France. Il a peut-être trouvé, les Anglais ont plus travaillé sur Hateg, donc il y a peut-être aussi ce petit parti pris de prendre des publications anglaises. Il l'a pris aussi parce qu'il y avait un homme extraordinaire qui s'appelait le baron von Nopcsa, qui était hongrois et qui a travaillé, qui avait des idées sur la paléobiologie des dinosaures dans les années 1910, qui était complètement révolutionnaire à l'époque. Donc c'était un personnage assez intéressant à suivre. Et puis surtout, les gisements de Roumanie, ces 10 dernières années, sont peut-être les plus productifs. On a commencé à faire un petit peu le tour de ce qu'on avait en France, par exemple, ou en Espagne. Et donc là, il y a eu des nouvelles découvertes. Et donc, je pense qu'il a choisi d'éclairer justement la faune du Crétacé supérieur romain.
Et au-delà du nanisme que vous venez d'évoquer, il y avait d'autres spécificités pour les espèces européennes ?
Non, rien de bien spécial. On a des animaux en fait qui qu'on connaît pour la première fois en Europe à cette époque-là. Par exemple, il adore le crapaud accoucheur. Voilà, donc c'est une famille très spécifique de crapauds. Donc les crapauds accoucheurs, les Elitidés, apparaissent à la fin du Crétacé supérieur, et donc on les connaît en Europe. Alors après, ils ont essaimé un petit peu partout, mais voilà, c'est en fait le plus vieil Européen qui est encore vivant.
Mais ça existe encore aujourd'hui.
Ça existe encore aujourd'hui, les crapauds accoucheurs. Vous les trouvez depuis l'Espagne jusqu'à quasiment le sud de l'Espagne.
D'accord.
Donc voilà, c'est des très très vieux Européens, et on a ces histoires avec les crapauds accoucheurs. Je ne sais pas pourquoi il est fasciné par les élites.
Qu'est-ce qu'il y a en couverture d'ailleurs du livre?
Alors c'est un gastornis, je pense. Donc c'est
c'est un dinosaure, hein?
Alors c'est pas un dinosaure, c'est déjà un oiseau, puisque c'est un animal qui vivait au Paléocène il y a à peu près 62 millions d'années. Et donc il nous raconte le début de l'Europe après justement la disparition des dinosaures. Et là on découvre qu'on avait ces grands oiseaux qui ont des tête de prédateur, il fait un petit peu peur quand on le regarde. Et récemment, il y a des collègues français, il y a Delphine Anx en particulier qui a travaillé là-dessus et qui a montré, en étudiant les isotopes de l'oxygène, du carbone et autres, que cet animal était sans doute herbivore. Et donc, on est il y a 60 millions d'années, et tout de suite après les dinosaures, les plus gros animaux, c'est quoi? C'est encore des dinosaures.
D'accord,
finalement.
Donc c'est après la disparition des gros mastodontes. Hein.
Mais c'est qu'encore des oiseaux, donc encore des dinosaures, et assez étonnant de les retrouver là.
Est-ce que Renan Alain, l'Europe a connu justement au cours de cette histoire-là des crises climatiques de l'ampleur de celles que nous connaissons aujourd'hui?
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on connaît la grande crise qui voit la disparition des dinosaures, mais on en oublie une. Il y en a une qui s'appelle qui a lieu à la fin du Paléocène, où on a un réchauffement climatique. On est à 56 millions d'années. Et on va avoir une montée de la température qui va être facilement de l'ordre de 6 à 7 degrés.
Ah oui.
Donc c'est à peu près ce qu'on est en train de vivre.
Et alors,
maintenant.
Ça, c'est intéressant de
on sait
comparer,
que c'est lié là. Aussi à du CO2. Ouais. On peut comparer, on sait que c'est lié à du CO2, et on sait que ça se passe à peu près en 20 000 ans, ce réchauffement climatique. Et on a estimé que les émissions de CO2 annuelles à cette époque-là, en fait, était évidemment importante, mais était très nettement inférieure à ce que nous on produit à l'heure actuelle.
Mais il venait d'où ce CO2 de l'époque? Parce que nous, c'est anthropique,
c'est ce qu'on appelle,
on sait d'où il vient.
Voilà,
mais...
nous, c'est ce qu'on appelle des clatrates, c'est-à-dire c'est du méthane sous forme de glace, plus ou moins. Et donc, il y a un réchauffement. Alors, on ne sait pas trop comment ce réchauffement se produit. Sans doute qu'il y a une activité tectonique ou volcanique, et donc ces clatrates vont libérer tout leur CO2, et on va assister à un réchauffement massif.
Mais la nature s'en tire toujours bien, elle.
La nature
s'en tire toujours bien. Qui va tranquille dans cette histoire. C'est pas tellement la nature. Hein.
C'est un peu ce que Tim Flannery met, ce que disent beaucoup de scientifiques, c'est qu'on n'en est pas à se battre pour sauver tel ou tel animal. On n'en est pas à se battre pour sauver la planète. La planète va très bien. Hein. On pourra préfacer le professeur Malcolm dans Jurassic Park. La vie trouve toujours son chemin. C'est vrai, malheureusement, il faut vraiment en être conscient. Mais il faut un jour que l'homme comprenne que s'il doit se battre sur ces réchauffements climatiques ou s'il doit accompagner le réchauffement climatique, c'est pas pour les autres, c'est d'abord pour lui. En fait. Et quand on aura compris ça, peut-être que les choses commenceront à bouger.
La Charente va bien toujours, Renaud.
La Charente va très bien.
Le hot spot des dinosaures. Ben oui, quand même. Oui. Vous avez encore trouvé au mois de juillet un exceptionnel fémur de 2 mètres qui appartenait à un sauropode.
Voilà, et on l'a trouvé devant le public, comme d'habitude. Et donc là, on a décidé cette année de le préparer en public aussi. Donc je pense que fin novembre à Angoulême, je ne suis pas sûr que les dates soient encore bien fixées, mais fin novembre, pendant une semaine, les gens pourront venir voir la préparation de ce grand fémur de plus de 2 mètres.
Il est impressionnant.
Il est magnifique. Mmh. Merci beaucoup, en tout cas, Renaud Alain. C'est vous qui préfacez donc cet ouvrage de Super Continent de Tim Flannery qui paraît chez Flammarion. Merci d'être venu nous en parler dans La Terre au Carré.